Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
h 19 sur Radio Présence, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose, nous sommes ensemble jusqu'à 20h comme chaque lundi en direct et pour vous accompagner dans ce début de semaine, Louis-Marie, bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir Enzo, bonsoir tout le monde.
Gros week-end aujourd'hui, enfin gros week-end hein,
oui,
ce week-end
fait,
avec la victoire du 15 de France oui. Face à l'Angleterre.
C'était fort, on a vécu des émotions intenses jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, hein, vraiment c'était assez exceptionnel, vous allez voir dans quelques minutes, on va se rappeler cette victoire avec de la musique, avec Free From Desire. Et puis Louis-Marie, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui?
Et bien comme chaque lundi, des chroniques, de la musique et aussi la rediffusion ce lundi d'un entretien un peu d'actualité qu'on a eu avec l'abbé Damien Verlet qui a passé 3 mois en Terre Sainte et donc il nous parlera un peu de son ressenti sur cette expérience-là et sur ce temps qu'il a passé là-bas à Jérusalem.
Merci beaucoup Louis-Marie pour ce rappel de programme. Voilà, soif d'autre chose, c'est maintenant. Et comme je vous l'ai dit, on commence avec un peu de musique. Vous l'entendez derrière moi, c'est Gala, c'est Free From Desire. Ça va nous rappeler la victoire du 15 de France face à l'Angleterre, champion du tournoi des 6 nations. On se retrouve juste après pour ta première chronique, Louis-Marie, sur le dimanche de l'étaré et le temps de la passion.
Allons-y.
My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. From desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. We'll be right back.
19h05 sur Radio Présence. Louis-Marie, c'est le temps pour ta première chronique. Une première chronique sur, qui va faire un rappel des dimanches passés, notamment celui de l'étaré et du temps de la passion.
C'est ça, donc on reste aussi un peu là sur ce thème de la joie, avec du coup le dimanche de l'étaré que nous avons eu hier, qui marquait un temps bien précis dans le carême, parce qu'on est déjà au milieu. La mi-carême, c'était jeudi, qui se prolonge aussi dans ce dimanche-là de l'étaré. Alors, l'étaré, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est les premiers mots de l'introïte de cette messe. Donc l'introïte, c'est la prière d'introduction de la messe, qu'on retrouve encore aujourd'hui hein, dans la forme extraordinaire. C'est également de là qu'on tient les noms des dimanches de Gaudete et encore plein d'autres fêtes. Et donc on remarque déjà le point commun entre ces deux dimanches, de l'étaré et de Gaudete, que la couleur est particulière, c'est la couleur rose, qui est utilisée seulement deux fois dans l'année liturgique, et qui vient s'installer dans des temps comme ça de pénitence et d'attente, donc le temps du carême, qui est un temps particulièrement parfois austère, qui vient s'éclairer un petit peu avec ce rose, qui nous rappelle déjà que Pâques est proche, et qui vient aussi nous rappeler d'être toujours dans la joie, parce que l'introïte dont nous parlons, l'introïte du dimanche de l'étaré, nous dit en français « Réjouis-toi à Jérusalem, rassemblez-vous vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie vous tous qui étiez dans la tristesse, exultez et rassasiez-vous de l'abondance de votre consolation. Je me suis réjoui lorsqu'on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Donc ce dimanche de l'étaré vient nous rappeler aussi la joie qui nous attend et Pâques qui approche. Et donc pour conclure un petit peu ce petit passage sur le dimanche de l'étaré, je voudrais vous citer une petite parole de Dom Placide de Roton, qui était un père abbé bénédictin, qui nous dit « Réjouissons-nous parce que c'est bientôt Pâques ». Le passage de Dieu, aujourd'hui dans la foi, demain dans la pleine lumière de la vision, réjouissons-nous dans la croix de Jésus, car en Jésus crucifié, nous trouvons Dieu. La mesure de notre participation à la croix de Jésus est celle de notre participation à sa résurrection. Soyons toujours dans la joie, puisque tout en Jésus devient joie. Et donc, on sort de ce temps du dimanche de l'étaré, et dimanche prochain, on entre dans un temps encore différent, qui est le temps de la passion. Donc, c'est un temps un peu séparé dans le carême.
Et alors pourquoi un temps particulier à l'intérieur du carême?
Parce qu'on approche assez vite de Pâques, le temps de la Passion vient deux semaines avant Pâques, et donc c'est la dernière semaine aussi avant la Semaine Sainte. Donc ce temps vient parce que jusqu'à présent, l'Église s'occupait surtout de l'instruction des catéchumènes et des pénitents. Toute son attention va désormais se concentrer sur notre Sauveur et sa Passion, Passion qui vient du mot latin Passio, qui veut dire souffrance, et trois thèmes dominent pendant ce temps. Le premier est celui du Christ qui est rejeté par son peuple. À travers les évangiles, nous voyons le chef du peuple comploter pour perdre Jésus. Apparaît le combat entre la lumière et les ténèbres, l'opposition entre nos intérêts matériels et l'amour du Sauveur. C'est là tout le mystère de la liberté de l'homme et son refus de Dieu. Ensuite, le Christ persécuté prie son Père pour ne pas l'abandonner. Sa plainte s'élève à travers tous les champs de cette quinzaine, et avec lui, c'est la prière de toute l'Église qui se fait entendre. Elle souffre encore, persécution pour sa fidélité envers son Maître. Et enfin, le Christ fait de cette persécution le moyen de notre salut. Jésus a accepté son sacrifice, il a dit oui à la croix, il a embrassé, et comme le chante l'hymne des Vêpres, ce mystère de la croix sur laquelle la vie a souffert la mort, par la mort a produit la vie.
Et on le voit souvent dans des églises, mais alors pourquoi les croix et les statues sont-elles voilées à ce moment-là?
Alors c'est vrai que c'est une particularité de ce temps-là, et il y a deux raisons à cela. La première, du côté de la croix, c'est que dans les premiers siècles, elle était faite de métaux précieux et souvent ornée de pierreries. On l'élevait comme un signe de victoire, et aussi il convenait d'en voiler l'éclat à l'époque où la gloire du Christ est comme voilée par ses souffrances. L'Église revêt ainsi son voile de veuve et ses habits de deuil. Et de notre côté, ces voiles sont comme un signe expressif de notre condition de pécheurs et d'exilés. Par nos fautes, nous sommes séparés du ciel et du Christ qui y règne. Il nous faut attendre la mort du Christ sur la croix, alors seulement nous pourrons à nouveau contempler le Christ triomphant. Le voile du Saint des Saints sera déchiré et la croix glorieuse apparaîtra à nos yeux.
Merci beaucoup Louis-Marie. D'ailleurs, en parlant de ce temps de la passion, hein, on va se retrouver avec Radio Présence durant toute la Semaine Sainte. Effectivement, à partir des Rameaux, la messe sera à 19h hein, à Notre-Dame de la Dorade, et elle sera en direct dimanche, hein, le dimanche de Pâques. On n'oublie pas aussi la messe chrismale hein, qui aura lieu le 30 mars à 19h en direct de la cathédrale Saint-Étienne. La messe de la Sainte Cène de notre Seigneur Jésus-Christ en direct aussi de Notre-Dame de la Dorade à 19h. Le chemin de croix aussi que vous pourrez suivre en direct sur Radio Présence avec un départ de Saint-Jérôme vers Saint-Cernat à 15h, toujours en direct. Et enfin l'office de la Passion à 19h. Et puis enfin le grand moment, un peu l'apothéose de ce temps de carême. On va passer jusqu'au temps de Pâques ensemble avec la vigile pascale à 21h en direct sur Radio Présence depuis Notre-Dame de la Dorade avec près de 80 baptêmes. Ça sera sera assez exceptionnel. Louis-Marie, on se retrouve juste après avec l'abbé Verlet pour un entretien sur donc le Moyen-Orient et vivre en chrétien dans le Moyen-Orient, mais on se laisse pour quelques minutes pour méditer sur ta chronique avec vous tous qui peinez de la chorale des tarés. On se retrouve juste après.
Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple. Dans le combat contre le mal, il est notre victoire. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Le Fils de Dieu resplendissant de la gloire du Père, nous donne part à sa clarté, sa parole et lumière. Vous tous qui venez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Votre foi puise la vie, ô rocher qui nous sauve. L'esprit d'amour vous comblera comme un torrent d'eau vive. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa
aujourd'hui, comme invité exceptionnel, nous recevons l'abbé Damien Verlet. Bonsoir, monsieur l'abbé.
Shalom, shalom.
Shalom à vous, monsieur l'abbé. Alors, vous nous appelez, alors pas depuis Bethléem, vous étiez il y a quelques jours, mais depuis Paris, c'est bien ça?
Oui, je suis en transit un petit peu, oui.
Très bien. Alors, on va vous poser alors quelques questions un peu sur votre pèlerinage hein, en Terre Sainte. Quelle est un peu cette sensation qu'il y a actuellement en Terre Sainte, hein, malgré le conflit. Comment s'est déroulé Noël à Bethléem? Ça fait depuis un petit moment hein, que Noël n'a pas été fêté. Quels sont vos ressentis à chaud, là, déjà?
Eh bien, écoutez, en fait, moi, j'y suis depuis 3 mois et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir le cessez-le-feu officiel et donc un grand espoir renaître un peu dans le cœur des chrétiens et puis des gens qui habitent là-bas et en même temps un espoir tempéré par le fait qu'ils savent très bien que l'absence de guerre n'est pas la paix. Et donc, ils voient un peu le bout de cette guerre, mais en même temps, ils savent très bien et le sentiment, c'est quand même qu'il y a beaucoup de craintes. De reprise d'hostilité et de manière générale, eh bien les gens ont un peu une crainte les uns des autres. Mais tout de même, dans ce contexte-là, ce qui était extraordinaire pour le patriarche et pour tous les chrétiens, c'est de pouvoir refaire des grandes fêtes à Bethléem. Donc ils ont mis un immense arbre de Noël devant Bethléem, ils ont refait des grandes fêtes auxquelles participent beaucoup de musulmans et de chrétiens. Le patriarche est venu, il y a eu ce marché de Noël, bien sûr ça fait partie un petit peu des choses qu'il y a dans le décor. Et pour la célébration de Noël en elle-même, bah, c'était assez extraordinaire parce que la basilique était pleine à craquer. Le patriarche a prêché de manière très solennelle et très belle, et en même temps traçant un petit peu un chemin pour l'avenir. Et pour moi comme prêtre français, au milieu de 150 prêtres, d'être dans cette basilique, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et en fait, pour que vous sachiez, à Bethléem, il y a ce qu'on appelle le champ des bergers, sur lequel il y a une quinzaine d'hôtels, ou peut-être plus encore, hein, où tous les pèlerins ont l'habitude de célébrer Noël. Donc ouais, tout au long de la nuit, sur tous ces hôtels, il y a des gens qui viennent célébrer la messe. Et donc moi j'ai eu la chance à 17h de célébrer la messe au Champ des Bergers, la messe de la veille, avec une soixantaine de Français, dont certains Français qui habitent là-bas depuis des années. Mmh. Et puis après à minuit, donc la grande célébration avec le patriarche, et là c'était très, très impressionnant, et on termine en fait sous la basilique, où il y a la grotte avec la mangeoire et le lieu de l'adoration des mages, des bergers. Et là, on était tous serrés, en chantant à tue-tête. Et c'était quand même beaucoup de ferveur et beaucoup de joie. Moi.
Très bien, magnifique. Et en dehors de cette célébration de Noël, qu'est-ce que vous avez observé depuis le début de votre arrivée en Terre Sainte? Et comment est-ce que vous avez ressenti ça? Donc, vous parliez un peu du cessez-le-feu, mais globalement, plus du côté du climat chrétien, entre guillemets, du lieu. Comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que prêtre français, justement, qui venait de l'extérieur?
Écoutez, c'est assez intéressant de voir des communautés chrétiennes, parce qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup de communautés étrangères qui sont installées là-bas. Au fin 19e et début 20e, il y a plein de communautés françaises qui ont voulu s'installer à Jérusalem et qui demeurent, et qui ont beaucoup fait d'accueil de chrétiens, de pèlerins. Et puis là, depuis 4 ans, en fait, il n'y a plus d'accueil, hein, parce qu'il y a très peu de pèlerins. Et donc il y a un peu cet espoir du retour des pèlerins. Et puis pour les communautés chrétiennes en tant que telles, pour certaines, elles sont un peu entre le marteau et l'enclume. Hein. Vous savez, tous les chrétiens qui sont en Cisjordanie, dans les territoires occupés, il y a une grosse pression de la part de colons israéliens, parfois vraiment extrémistes et très violents. Et puis l'islam aussi qui a un côté un peu conquérant. Et donc les chrétiens essayent d'être ferments de paix au milieu de tout ça, de demeurer. Il y a plein de jeunes chrétiens qui malheureusement fuient. Dès qu'ils peuvent, en fait, ils partent et ils migrent. Donc là, c'est un peu source d'espérance pour certains. Mais ceux qui sont là, et les prêtres, bien sûr, et les curés, essayent de développer, y compris économiquement, les communautés pour qu'ils puissent subsister et avoir des perspectives pour l'avenir. Donc c'est un climat assez particulier. Bien sûr, les yeux sont aussi un peu tournés vers Gaza, hein, parce que Gaza, on voit pas trop, les informations passent pas trop. Mmh. Quand on habite à Jérusalem, vous voyez, on voit rien de ce qui se passe à Gaza. Ouais. On a l'impression que tout est paisible, et pourtant, il y a des morts chaque jour à Gaza.
Alors, c'est pas si loin.
Ouais, et voilà, c'est juste à côté. Donc, il y a ce côté un peu étonnant. Et on peut ne rien voir, mais en même temps, on sait que tout autour, il y a beaucoup de crispations, il y a des morts et il y a beaucoup de souffrance. Et donc au milieu de ça, petite anecdote, hein, mais je suis allé avec des sœurs de Mère Teresa pour aller faire des maraudes auprès des toxicos à Tel Aviv. Bon, c'est assez bouleversant de voir ça. Bouleversant de voir une jeune Française qui vient de Nantes, hein, et qui était depuis des années à Gaza comme religieuse, et maintenant elle est à Jérusalem. Les chrétiens essayent de tenir leur rôle, hein, d'être lumière du monde au milieu des conflits de ce temps, quoi.
Ouais, Noël, un peu un synonyme quand même d'espoir pour une paix ou un espèce de soulagement.
Bien sûr, oui. Soulagement, ça c'est sûr, hein, il y a ça, parce que la guerre est finie. Vous savez, c'est assez marrant de voir le monde d'Israël. Hein, eux, il n'y a pas la laïcité comme en France. Hein, vous savez, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu, il y avait des immenses panneaux avec le portrait de Trump avec marqué « Merci au nouveau Cyrus ». Pour rappel, Cyrus, c'est l'empereur perse qui a permis le retour des Israélites qui étaient exilés à Babylone vers Jérusalem. Donc, vous voyez, il y avait des immenses panneaux en disant « Merci Trump, le nouveau Cyrus ». Donc eux, ils mélangent un petit peu tous ces aspects religieux et politiques. Mais tout ça pour dire qu'il y a un peu cette joie, en tout cas pour les Juifs, de la fin de cette période où il y a eu tant d'otages, qui a vraiment traumatisé le monde juif, et pour les Palestiniens aussi, d'un peu de paix, parce que ils avaient besoin de cette paix. Et donc, un petit peu ce que je peux dire de ce que j'ai ressenti, mais ce qui est vrai, c'est qu'il demeure quand même certains climats de tension. Moi, comme prêtre catholique, en se promenant, vous savez, dans les rues de Jérusalem, on découvre aussi la diversité des religions, et puis des gens qui peuvent parfois mépriser au nom de leur religion. Mmh. Et ça, c'est un peu impressionnant, hein, de voir ça, parce que nous, comme chrétiens, on sent bien que notre cœur est appelé à être universel, on est appelé à aimer toute personne, même celui qui vous hait le plus. Mais en fait, dans certaines compréhensions du judaïsme à l'heure actuelle, on doit mépriser les chrétiens. Et des hommes d'église, il n'est pas rare que les gens crachent sur la route quand ils croisent des hommes d'église. Donc ça, c'est un peu violent pour nous comme chrétiens de voir des choses pareilles. Mmh. Mais on essaie de vivre ça chrétiennement, quoi.
Très bien. Là, on parlait du coup de Jérusalem, on reviendra dessus un peu plus tard. Et moi, je voulais vous demander si jamais vous avez eu l'occasion aussi, durant votre pèlerinage, de voir d'autres coins, peut-être un peu plus reculés, où les communautés chrétiennes sont très minoritaires, peut-être par exemple des villages en Palestine. Il me semble qu'il y a quand même quelques villages chrétiens en Palestine. Est-ce que vous avez eu un peu l'occasion d'appréhender un peu ce terrain-là?
Oui, oui. Alors ça, j'étais heureux de, grâce à Samuel Pruvot, journaliste de Famille Chrétienne, là, qui est, bon, on connaît bien la paroisse étudiante aussi. Hein, il était venu pour faire un reportage pour Famille Chrétienne à Taïbé, le dernier village totalement chrétien de Palestine. Et donc je suis allé avec lui. Et donc c'était assez bouleversant de voir ces communautés, à la fois une communauté latine et puis une communauté melkite. Donc, grec catholique, et donc deux prêtres assez remarquables, hein, qui sont là, qui tiennent le terrain, qui tiennent leur rôle de curé, qui prennent soin des brebis, et en même temps qui étaient un peu dans l'appréhension à l'occasion de la cueillette des olives, parce que c'est un peu c'est l'or vert, on appelle ça, hein, c'est un des moyens de subsistance de beaucoup de chrétiens, enfin de beaucoup de palestiniens, et souvent c'est l'occasion de friction avec des colons juifs, des colons juifs un peu extrémistes qui viennent faire certaines exactions auprès des agriculteurs palestiniens. Donc ils étaient assez embêtés par ça, et en même temps ils cherchaient le soutien, et qu'ils ont, hein, du consul de France à Jérusalem. Parce que vous savez que la France a toujours eu ce rôle historique
de
protection, tout à fait, protection des chrétiens d'Orient. Et le consul de Jérusalem est assez attentif à ça. Mm-hmm. Et donc, ils viennent un peu pour faire bouclier humain, entre guillemets, hein, ouais. Et pour soutenir les chrétiens dans la récolte des olives. Et ça, c'est assez beau de voir aussi cet engagement de la France à cet égard. Et puis, petite anecdote pour ceux qui connaissent la paroisse étudiante, hein, j'ai eu la joie de rencontrer Manuela Fitchi, qui est une ancienne de la paroisse étudiante, qui après 10 ans à Radio Vatican travaille maintenant au consulat de France à Jérusalem. Et en fait, donc elle avait fait un doctorat, une thèse sur les relations du Vatican et d'Israël. Et actuellement, en fait, elle est conseillère au consulat pour les communautés religieuses françaises qui sont en Terre Sainte. Et donc, c'est très intéressant de voir une ancienne de la paroisse étudiante, hein, faire une belle carrière, entre guillemets, et être engagée là-bas auprès des chrétiens et des communautés chrétiennes.
Qui montre que la paroisse étudiante de Toulouse est partout et qu'elle a le bras long avec un sacré réseau.
Et elle donne du fruit, surtout.
Et elle donne du fruit.
Oui, oui, c'est assez chouette de voir ça, oui. Ouais.
Pour mettre un peu contexte quand même un petit peu, et juste voir les choses un peu plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le déroulé de votre séjour? Comment est-ce que vous êtes arrivé en Terre Sainte et comment est-ce que vous en êtes reparti? En donnant un peu en survolant un petit peu tout votre séjour.
Écoutez, je suis arrivé donc fin septembre, parce que quand on part en Terre Sainte, on a 90 jours comme visa touristique. Et donc j'avais visé pour pouvoir rester jusqu'au 25 décembre. Et donc je suis arrivé fin septembre, et puis là j'ai été accueilli donc au couvent des Dominicains, le couvent des Dominicains qu'on connaît bien à Toulouse, hein, et donc il y a l'école biblique et archéologique de France à Jérusalem, qui est fondée par le père Lagrange, et où il y a d'éminents dominicains qui travaillent actuellement. Et donc, c'est une école où il y a de l'archéologie et de l'étude de la Bible. Et donc, plein d'esprits très brillants, et qui embauchent aussi, embarque des étudiants qui travaillent là-bas sur la Bible dans ces traditions que vous avez à retrouver sur Internet. C'est assez passionnant. Ils sont en train de faire une cathédrale numérique biblique, toute la Bible avec des références culturelles, ça peut être même des clips de rap, ou vous voyez des tableaux bien connus de l'histoire de l'art, et donc là il y a des belles œuvres qui sont en train d'être faites dans ce couvent. Et donc moi j'étais dans ce couvent pendant 3 mois, j'ai la chance de vivre là-bas, d'avoir les offices là-bas, de suivre quelques cours d'archéologie et de Bible, donc ça permettait d'aller sur le terrain, de découvrir aussi cette discipline qu'est l'archéologie. Et puis après, je découvrais un petit peu les communautés locales, au gré des circonstances, des rencontres, j'ai découvert des lieux aussi. Et donc, 3 mois entre repos, études et visites. Et je retiens aussi une rencontre assez sympathique que j'ai faite, hein, le frère Abiel, qui est actuellement head au diocèse de Jérusalem, mais qui depuis 20-25 ans connaît très bien les déserts de Judée et puis tout le monde monastique en fait. Hein, il s'est beaucoup intéressé au développement de la vie monastique dès les premiers temps de l'Église. Et donc c'était une grande joie d'aller aussi dans certains wadis, dans certains déserts ou des canyons où la vie monastique a fleuri dans les premiers temps de l'Église. On trouve des cellules de moines un peu partout, accrochées à la falaise. On ne sait même pas comment ils montaient, certainement avec des cordes. On trouve des lieux de célébration, notamment une chapelle là, qui est dédiée à Sainte-Anne, où il y a encore des mosaïques qui datent du 5e, 6e siècle. Et donc tout ça est assez bouleversant d'être en prise avec les chrétiens des premiers siècles et la manière dont ils ont vécu. Donc ça a été vraiment une grande richesse de découvrir un peu tout cela, découvrir aussi la ferveur des chrétiens locaux. Et voilà, et donc 3 mois, et ça m'a permis de bien me reposer, de bien me ressourcer. Et voilà, maintenant je suis de retour en France.
De retour en France, et peut-être un autre passage en Terre Sainte?
Non, pas en Terre Sainte malheureusement, mais enfin bon, une grande joie déjà, c'est que quand je suis parti de la paroisse étudiante l'année dernière, eh bien, beaucoup d'étudiants ont participé à un beau cadeau, et donc c'est un pèlerinage à Guadeloupe. Donc là, je vais avoir la chance d'aller au Mexique auprès de la Vierge de Guadeloupe. Voilà, aussi un haut lieu spirituel et un haut lieu de conversion, parce que vous savez que lorsque la Vierge est apparue, après, dans les 10 années qui ont suivi, il y a eu 2 millions de baptêmes. Et donc, quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, moi, vu l'afflux de demandes de baptême qu'il y avait sur la paroisse étudiante, je me suis dit, c'est intéressant de voir un petit peu comment la Vierge Marie a engendré tout ça là-bas au Mexique il y a quelques siècles, et puis comment est-ce que l'Église a fait face à cet afflux de catéchumènes.
Parfait. Ben en plus, on en avait parlé il y a quelques semaines là, de cette apparition, parce que c'est en décembre que nous la fêtions. Oui. Donc c'était aussi l'occasion d'en parler un peu sur ça d'autres choses. J'aimerais qu'on revienne, si vous voulez, un peu en Terre Sainte. On parlait du coup du lien entre la France et Jérusalem, et c'est vrai que la France a quelques prises de territoire à Jérusalem, notamment des églises assez importantes. Je pense qu'il y a l'église du Notre Père, par exemple. Est-ce que vous avez l'occasion de visiter ces lieux? Et voilà, est-ce que vous avez vu un peu ces endroits-là?
Tout à fait. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'assez bouleversant. Alors, on va y revenir, mais l'église d'Abou Ghosh, qui est un prieuré qui a des croisades, qui est magnifique, où il y a quelques moines olivétains. Ils développent justement un volontariat pour les jeunes, donc ça sera peut-être un lieu intéressant pour les jeunes qui voudraient passer quelques temps en Terre Sainte, logés, nourris là-bas, et en même temps contre bénévolat, et donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a effectivement l'église du Pater, l'Eléona, sur le mont des Oliviers, face à Jérusalem, une église vraiment magnifique qui appartient à la France, et il y a des carmélites qui sont là, une quinzaine, dont Sœur Agathe, qui est une Toulousaine. Et donc, je suis allé célébrer la messe plusieurs fois là-bas, et c'était une grande joie de voir et de découvrir que depuis plus de 150 ans, en fait, des Toulousains et les familles toulousaines avaient eu ce désir et ce projet de construire une basilique du Sacré-Cœur sur le mont des Oliviers. Voilà, en voulant dédier une basilique au Sacré-Cœur de Jésus à Jérusalem. Et donc, ils avaient négocié avec le pape, eu sa bénédiction, ils avaient commencé à récolter des fonds. Mais dans les années 30, avec la crise économique, le projet a été avorté. Et donc ça, c'est assez intéressant, l'église du Pater. Il y a aussi d'autres lieux qui appartiennent à la France, l'église Sainte-Anne, magnifique, lieu de la naissance de la Vierge Marie. Et là, ce sont les Pères Blancs qui sont là-bas. Une église vraiment magnifique où il y avait la messe consulaire à l'occasion du 8 décembre. Donc vous voyez, alors que vous, les étudiants, faisait quelque chose de grand à la Dorade, eh bien, nous étions beaucoup de Français avec le consul pour la messe consulaire qui était à Sainte-Anne. Et alors, vous savez, dans cette particularité du consul de France à Jérusalem, comme il est protecteur des chrétiens d'Orient, il y a un petit rite liturgique qui est intéressant, c'est qu'on encense le consul, et donc ça, c'est pas contraire à la laïcité, vous voyez, c'est l'histoire, et la laïcité n'exclut pas le fait religieux. Et donc, on encense le consul, et puis, en général, on lui présente l'évangile aussi à la vénération. Alors avant, il embrassait l'évangile, aujourd'hui, il le vénère simplement par une intimation. Mais donc c'est assez intéressant de voir aussi ce rôle de la France là-bas à Jérusalem, y compris dans le développement des communautés chrétiennes. Donc l'église de Sainte-Anne, et puis il y a un lieu qu'un Français a fouillé et qui aujourd'hui appartient à la France depuis plus de 150 ans, qui est le tombeau des rois, qui est un lieu archéologique intéressant. Et le cinquième lieu, j'avoue que je ne l'ai plus en tête, mais voilà, en tout cas, la France est bien présente là-bas, et elle attend des pèlerins français. Et c'est peut-être l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que n'hésitez pas à imaginer des pèlerinages en Terre Sainte, à économiser, mettre de l'argent de côté, parce que maintenant, on a plein de contacts là-bas, il y a des étudiants, j'ai eu la joie de retrouver un étudiant dans le désert là-bas, qui était passé par la paroisse étudiante il y a quelques années, et qui a aussi plein de contacts et qui rêve aussi, je crois, d'organiser un pèlerinage pour des jeunes Toulousains.
Et peut-être en 2033, l'appel du pape Léon XIV qui espère un jubilé à Jérusalem, peut-être.
Ouais, merci Enzo, c'est incroyable cette proposition du pape. Ça a beaucoup résonné, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, vous imaginez les chrétiens qui viennent du monde entier. Et j'étais aussi heureux de voir que chez les juifs qui sont devenus chrétiens, parce que vous savez qu'il y a quand même pas mal de conversions du judaïsme vers le christianisme, il y a des juifs qui se disent messianiques, donc qui font pas le pas de rentrer dans l'église, mais il y a des juifs qui sont devenus catholiques. Et donc je vois qu'ils étaient très heureux aussi de cette invitation du pape et qu'ils mettaient beaucoup d'espérance sur le fait qu'Israël puisse redécouvrir la figure du Christ, le Messie, et que de nombreux parmi eux puissent le reconnaître comme leur Seigneur. Donc 2033 à Jérusalem, effectivement, mais je pense que vous, jeunes chrétiens, vous pouvez ne pas attendre 2033 en y allant en 2027, par exemple.
Très bien, on ira sûrement à Jérusalem tant qu'on sera encore jeune. Donc pour conclure, Monsieur l'abbé, j'aimerais vous demander, voilà, peut-être encore, là c'est encore tout récent, mais comment est-ce que du coup, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 mois en Terre Sainte et comment est-ce que vous pensez que ça va vous impacter pour le reste de votre sacerdoce et de votre vie ?
Bien sûr, on ne lit pas l'évangile de la même manière, on a envie de connaître la Bible, en fait, de comprendre comment le Christ accomplit pleinement les Écritures et donc de connaître l'Ancien Testament. Et voyez, je vous invite à vous y coller parce que l'Ancien Testament, au début, ça peut être un peu comme du chinois, quoi. On peut l'entendre, mais si on ne s'y colle pas, on ne rentre pas vraiment dedans. Alors que si on rentre peu à peu dans l'Ancien Testament, mais on découvre le plan de Dieu, son plan de salut et comment progressivement il se révèle, et ça c'est assez bouleversant. Vous voyez, quand par exemple on descend de Jérusalem à Jéricho, dans ce wadi là, dans ce désert, c'est assez bouleversant de voir que selon la tradition, en fait, ce désert est un lieu où Adam serait allé pleurer après le meurtre d'Abel par Caïn, son frère. Alors vous voyez, c'est pas un lieu vraiment archéologique, mais c'est un lieu théologique où on réfléchit là-dessus. Et donc Adam est allé pleurer là-dedans pendant 40 jours. Hein, c'est 40, on sait bien ce que c'est aussi. Hein. Le Christ lui-même, eh bien, est allé au désert pour, comme nouvel Adam, eh bien, racheter l'humanité et lui permettre de revenir vers Dieu, de revenir vers la ville sainte. Vous savez très bien que Jéricho a une mauvaise réputation. Hein. Quand on descend de Jérusalem à Jéricho, c'est une figure de l'homme qui est blessé par le péché originel, qui s'éloigne du paradis originel et qui est dans sa déchéance. Et le Christ, lui, a permis de remonter vers Jérusalem. Il est celui qui conduit à travers le désert les hommes de toute race, langue, peuple et nation. Et donc, d'une certaine manière, le Christ, il est celui qui nous prend, nous, dans notre soi spirituel et qui nous donne de nous abreuver en nous ramenant vers le ciel. Et donc, vous voyez, en fait, tous ces lieux qui ont été pétris par la prière, par la tradition depuis des siècles, nourrit énormément notre vie de foi. Et donc, moi, je suis persuadé que ça va nourrir aussi toute ma manière de vivre l'Évangile et de transmettre l'Évangile. Et donc ça, je rends grâce pour cette opportunité qui m'a été donnée de passer 3 mois là-bas. Oui.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé Damien Verlet, prêtre pour le diocèse de Toulouse, pour ce petit retour depuis la Terre Sainte. On prie pour vous et on prie pour vos vacances bien méritées et pour la continuation de votre sacerdoce.
Merci beaucoup, Enzo. Merci, Louis-Marie. Merci à tous. Et puis donc, mettez dans un coin de votre tête, hein, qu'un jour, on partira tous en Terre Sainte en pèlerinage.
Présence.
Énorme s'élever à l'est du soleil, énorme s'élever, le monde n'est plus pareil. À tous les coins de rue, c'est comme un air de fête. Des millions d'inconnus vont relever la tête. Les cloches des églises réveillent les étoiles. La peur n'est plus de mise au pied des cathédrales. Sous les yeux étonnés des puissants de la terre, un homme est revenu après de millénaires. Marie-Madeleine, lève-toi, toi qui l'aimais, toi tu le reconnaîtras. Va sans tarder prévenir tous ses frères, Jean et Matthieu et surtout Simon-Pierre. Marie-Madeleine, réveille-toi, tout comme hier il vient te tendre les bras et mettre fin à la folie des rois. Marie-Madeleine, souviens-toi. Un homme s'est levé et soudain dans la nuit, le monde des oliviers est au cœur de Paris. Il a mis son violence à quelques pas de nous, par sa seule patience des armées à genoux. Déjà sur son passage, New York et Bethléem ne sont plus qu'un village, le Jourdain c'est la Seine. Personne n'y croyait plus à l'homme de Nazareth. Le voici revenu reprendre sa planète. Marie-Madeleine, lève-toi, toi
toi tu le reconnaîtras. Va sans tarder prévenir tous ses frères, Jean et Mathieu, et surtout Simon Pierre. Marie-Madeleine, réveille-toi, tout comme hier, il vient te tendre les bras et mettre fin à la folie des rois. Marie-Madeleine, souviens-toi. Marie-Madeleine, réveille-toi, toi qui l'attendais depuis longtemps déjà. Même si la terre à nouveau l'abandonne, va retrouver et ton Dieu et ton homme. Marie-Madeleine, réveille-toi, il est revenu aussi fort qu'autrefois, et jamais rien ne te le reprendra.
Marie-Madeleine avec Dalida sur Radio Présence, il est 19h36. Louis-Marie, deuxième chronique de l'émission, une chronique sur Saint-Benoît.
C'est ça, donc Saint-Benoît, bon, évidemment, avant de parler de Saint-Benoît, on n'oublie pas que cette semaine, c'est la Saint-Joseph. Ce sera le jeudi 19 mars, donc pensez-y, hein, c'est une grande solennité et souvent l'occasion aussi de très belles messes. Mais on a déjà parlé de Saint-Joseph au début de ce mois de mars qui lui est consacré. Et donc ce soir, j'ai choisi de vous parler de Saint-Benoît qu'on fêtera cette semaine aussi. On le fêtera le samedi 21 mars. Il faut savoir aussi qu'on fête Saint-Benoît le 11 juillet. Plus communément parce que c'est la date des translations de ses reliques. Mais voilà, il est aussi fêté le 21 mars parce que c'est le jour de sa mort. Donc aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'une figure discrète, mais qui est fondamentale dans l'histoire spirituelle de l'Europe. Saint Benoît, moine, fondateur et législateur du monachisme occidental, il a profondément marqué la civilisation européenne bien au-delà du seul domaine religieux. On est donc à la fin du 5e siècle dans l'Empire romain d'Occident, qui vient de disparaître, et l'Europe entre dans une période de transformation et d'incertitude, et c'est dans ce contexte troublé que naît vers l'an 480 Benoît de Nursie dans la petite ville de Nursie, au cœur de l'Italie centrale. Issu d'une famille relativement aisée, le jeune Benoît reçoit l'éducation classique réservée aux jeunes gens de bonne naissance. Très tôt, il est envoyé à Rome pour poursuivre ses études. À cette époque, la ville reste un centre intellectuel important, même si elle a perdu dans sa splendeur politique. Mais le séjour romain du jeune étudiant prend une tournure inattendue. Selon les récits anciens, Benoît est profondément choqué par l'agitation et les excès qu'il observe autour de lui. La vie mondaine, les ambitions politiques, les rivalités, tout cela lui paraît vide de sens. Et plutôt que de poursuivre sa carrière brillante et que son éducation lui promettait, il prend une décision radicale, quitter Rome. Il se retire alors dans une région montagneuse située à l'est de la capitale, près de Subiaco. Et là, dans la solitude presque totale, Benoît choisit la vie d'ermite. Pendant plusieurs années, il vit dans une grotte appelée aujourd'hui la Sacro Speco. Dans ce lieu sacré et retiré, il consacre ses journées à la prière, au silence et à la méditation. Et cette démarche s'inscrit dans une tradition déjà bien ancienne dans le christianisme. Déjà dès le 3e et le 4e siècle, certains croyants choisissaient de quitter le monde pour chercher Dieu dans la solitude du désert. Parmi ces pionniers figurent notamment saint Antoine le Grand, ermite égyptien considéré comme l'un des pères du monachisme chrétien, en tout cas en Orient. Et la vie de ces ermites d'Égypte et de Syrie est peu connue alors en Occident, et leurs expériences spirituelles sont notamment transmises par les écrits d'un moine originaire de Gaule, Saint Jean Cassien. Ses conférences et ses institutions cénobitiques décrivent la vie des moines d'Orient et influencent profondément la réflexion monastique occidentale. Ce sera d'ailleurs l'auteur le plus cité dans la règle de Saint Benoît, Saint Jean Cassien étant du coup ce pont entre le monachisme oriental et occidental. Benoît connaît ces traditions, sans les imiter totalement, il s'en inspire pour élaborer un modèle de vie monastique adapté au monde occidental. Car bientôt, la solitude de l'ermite attire à l'attention. La réputation de sagesse de Benoît s'apprend dans toute la région. Des hommes viennent lui chercher conseil, certains souhaitent même partager sa vie de prière. Peu à peu, Benoît comprend que sa vocation ne sera pas seulement celle d'un ermite solitaire, mais d'un guide spirituel. Il organise donc plusieurs petites communautés de moines dans la région de Subiaco. Ces groupes vivent ensemble, prient et travaillent ensemble. C'est le début d'une forme de vie monastique plus organisée, la vie communautaire, ou aussi appelée la vie cénobitique. Et quelques années plus tard, vers 529, Benoît monte un monastère qui deviendra célèbre, celui du Mont Cassin, qui sera érigé plus tard en abbaye. Situé sur les hauteurs entre Rome et Naples, ce lieu deviendra le centre de son œuvre et le point de départ d'une immense influence. C'est là que Benoît rédige le texte qui va marquer l'histoire, la règle de Saint Benoît. Cette règle est un guide de vie destiné aux communautés monastiques, elle organise le quotidien des moines autour d'un équilibre simple mais exigeant, la prière, le travail et la vie fraternelle, Une formule latine qui résume bien cet esprit, ora et labora, prie et travaille. Mais ce qui fait la force de la règle bénédictine, c'est surtout son sens de la mesure. Benoît ne cherche pas l'extrême austérité comme certains ermites du désert, mais il privilégie plutôt la stabilité, l'équilibre et l'attention en personne. L'abbé doit gouverner avec sagesse, écouter les moines et tenir compte des capacités de chacun. Cette modération explique en grande partie le succès de sa règle. Après sa mort, Benoît de Nursie, qui meurt vers 547, sa règle, elle, se diffuse progressivement dans l'Occident chrétien et au fil des siècles, de plus en plus de monastères adoptent ce mode de vie. C'est ainsi que se développe ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre bénédictin, qui persiste encore aujourd'hui avec de nombreuses vocations et de nombreuses abbayes. Les monastères bénédictins deviennent alors des centres essentiels de la vie européenne. On y prie, bien sûr, mais on y travaille aussi la terre, on accueille les voyageurs, on soigne les malades et on transmet le savoir. Dans les scriptoriums des monastères, les moines recopient patiemment les manuscrits de l'Antiquité, et grâce à eux, de nombreuses œuvres de la littérature grecque et latine ont été préservées. Les moines contribuent également à transformer les paysages, ils défrichent les terres, développent l'agriculture et fondent parfois des nouveaux villages autour d'eux. Pendant tout le Moyen-Âge, la règle bénédictine façonne ainsi la vie religieuse, culturelle et même économique d'une grande partie de l'Europe. Cette influence est telle que bien des siècles plus tard, en 1964, le pape Paul VI proclamera Benoît de Nursie patron de l'Europe. Une reconnaissance symbolique pour celui qui, sans jamais chercher le pouvoir ni la gloire, a proposé un modèle de vie fondé sur la prière, la stabilité, le travail et la communauté. Depuis une grotte isolée près de Subiaco jusqu'aux milliers de monastères qui ont marqué l'histoire du continent, l'héritage de Saint Benoît rappelle qu'une simple idée vécue avec fidélité peut transformer durablement une civilisation. Et donc pour terminer cette chronique sur Saint Benoît, je tenais à vous partager une citation d'un autre père abbé bénédictin, qui celui-là est beaucoup plus récent parce qu'il est mort seulement en 2008, il s'agit de Don Gérard Calvé, fondateur et premier abbé de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barreau, qui nous dit que l'aventure des moines est avant tout intérieure et son unique mobile est la soif de l'absolu, la soif d'un autre monde, un monde de vérité et de beauté que la liturgie avive, au point d'orienter le regard vers les choses éternelles et de faire du moine un homme tendu vers la réalité qui ne passe pas. Avant d'être des académies de sciences et des carrefours de civilisation, les monastères sont des doigts silencieux dressés vers le ciel, le rappel obstiné, intraitable qu'il existe un autre monde, dont celui-ci n'est que l'image qu'il annonce et qu'il préfigure.
Merci beaucoup Louis-Marie. On rappelle la date de la solennité de la Saint-Joseph.
Le jeudi 19 mars.
19 mars, voilà. N'hésitez pas à aller à la messe. C'est aussi voilà, une grande solennité et aussi une petite pause, on dirait, dans ce carême. Vous qui nous écoutez sur Radio Présence, on vous souhaite une bonne fin de carême. On approche très vite de la Semaine Sainte. Dans quelques instants, vous retrouverez Footloose avec Kenny Loggins. Mais avant ça, on va méditer sur ta chronique, Louis-Marie, avec vous tous qui pédez. C'est la chorale Les Tarés.
Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple, dans le combat contre le
Oh, péché, guéris toutes blessures. Paître nos cœurs, joie du royaume, plénitude de grâce, pour tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous.
La transition n'était pas prévue, hein. C'est un peu brutal. 19h48 sur Radio Présence, c'est déjà la fin de Sauf d'autres choses. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque lundi, en direct sur Radio Présence pour vous accompagner dans ce début de semaine. Dans quelques instants, vous allez retrouver Des Clés pour Vivre avec Nathalie Cardon, Les Rues de Toulouse et Halte Spirituelle. On vous souhaite une très bonne soirée et une bonne fin de carême. Courage, c'est bientôt fini. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine.
Oui.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.